Le journal. Le journal, Benoît Bouscarel.
Bonsoir. Le vendredi de la rage dans le monde musulman, nous ferons dans le journal un bilan de cette journée qui n'a pas été aussi violente qu'on aurait pu le craindre. Trois jours après l'annonce de Donald Trump sur sa reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, nous écouterons le reportage de notre correspondant Étienne Monin. En France, les associations d'aide aux plus démunis très remontées contre le ministère de l'Intérieur qui veut recenser les migrants dans les centres d'hébergement d'urgence. Reportage à suivre de Camille Magnard. Et puis le congrès de la réunification à partir de demain du Parti Radical. Après 45 ans de scission, le PRG et le Parti Radical valoisien vont unir à nouveau leur destinée. C'est le retour du plus vieux parti politique de France. On en parle dans ce journal avec notre invité Frédéric Focassi. Il est historien et directeur des études à la Fondation Charles de Gaulle. Les conséquences de la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël se sont fait une nouvelle fois sentir tout au long de la journée à travers le monde. En ce vendredi de grande prière, des manifestations ont eu lieu dans de nombreux pays musulmans, des pays du Maghreb jusqu'en Indonésie, en passant par la Turquie, l'Afghanistan, le Pakistan ou la Syrie. Les cortèges ont souvent rassemblé plusieurs milliers de personnes. On a compté 20 000 manifestants à Amman, en Jordanie, et si deux Palestiniens ont trouvé la mort dans des affrontements aujourd'hui à Gaza, ce vendredi a pour l'instant été moins violent que redouté. Reportage de notre correspondant permanent à Jérusalem, Étienne Monin.
Porte des Lions, à l'entrée de l'esplanade des mosquées, la prière est importante, mais elle n'est pas massive, regrette Abed, habitant de Jérusalem.
Malheureusement, de ce que je vois, c'est comme n'importe quel vendredi. Ça devrait être un jour pour montrer qu'on est là, qu'on est solidaire, mais ça ressemble à un vendredi comme les autres.
Quelques heures ont eu lieu après, à la sortie de la vieille ville, mais les Palestiniens ont prié dans le calme, avec le sentiment aujourd'hui d'être abandonnés par leurs leaders et les autres, explique Ibrahim Lachat.
J'espère que les nations musulmanes vont bouger parce qu'il n'y a pas d'espoir avec les leaders. Il n'y a rien à attendre des leaders politiques.
Le coup porté par les Américains accentue le décrochage avec les responsables palestiniens. Il est temps de sortir du déni et de renoncer à Oslo, estime Samir qui vit dans un quartier colonisé.
On n'a rien obtenu depuis Oslo. Chaque année, on perd un peu plus de terrain. Et ça n'est plus possible d'envisager un État comme c'était notre rêve à nous les Palestiniens.
En juillet dernier, les Palestiniens s'étaient pourtant très fortement mobilisés, mais c'était pour la mosquée Al-Aqsa à l'appel des leaders religieux.
Étienne Monin. Ce soir à New York était organisée une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. L'ONU s'est déclarée à cette occasion particulièrement inquiète des risques d'une escalade violente sur les 15 pays qui composent le Conseil de sécurité. 14 ont critiqué la décision américaine. De son côté, au Caire, en Égypte, le grand imam d'Al-Azhar, la plus grande autorité sunnite, a décidé d'annuler une rencontre prévue fin décembre avec Mike Pence, le vice-président américain. Et puis ce soir, le ministère palestinien de la Santé fait état d'au moins 25 blessés, dont 6 enfants, dans des frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza. Selon l'armée israélienne, il s'agit de représailles à des tirs de roquettes sur des villes israéliennes plus tôt dans la journée. Les discussions commerciales vont pouvoir s'ouvrir probablement début 2018 entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Ce matin, la phase 1 des discussions autour du Brexit s'est achevée sur un accord, ou plutôt sur une série de compromis. Les trois préalables posés par l'Union européenne ont fait l'objet d'un texte de 15 pages sur le sort de la frontière irlandaise, la facture du Brexit à payer par Londres et les droits des expatriés. Prochaine étape des discussions, le sommet européen des 14 et 15 décembre. Dans l'enquête sur la cimenterie Lafarge-Holcim de Jalabiya en Syrie, deux anciens dirigeants du groupe, dont l'ex-PDG Bruno Lafont, ont été déférés de cet après-midi devant un juge. Ils risquent une mise en examen, tout comme l'ex-directeur général, Eric Olsen, jeudi soir, Anne-Laure Bouzige.
L'ancien PDG est mis en examen pour financement d'une entreprise terroriste et pour mise en danger de la vie d'autrui. Deux autres anciens cadres du groupe sont en garde à vue. Bruno Lafont, le PDG de Lafarge de 2007 à 2015, et Christian Hérault, l'ancien directeur général adjoint en charge de plusieurs pays, dont la Syrie. Eux risquent aussi une mise en examen pour financement du terrorisme et mise en danger des salariés syriens. La semaine dernière, trois cadres, dont l'ancien directeur de l'usine syrienne, ont déjà été mis en examen, notamment pour financement d'une entreprise terroriste. Tous les trois ont été placés sous contrôle judiciaire. Le groupe Lafarge est soupçonné d'avoir versé de l'argent à des groupes djihadistes pour continuer à faire fonctionner en 2013 et 2014 son usine de Jalabiya dans le nord de la Syrie.
Anne-Laure Bouzige. La grosse colère et l'inquiétude des associations d'aide aux personnes en difficulté, c'est une initiative du ministère de l'Intérieur qui provoque cette colère à propos de l'accueil dans les centres d'hébergement d'urgence. Jusqu'à maintenant, l'accueil n'y est soumis à aucune condition. Mais Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a confirmé aujourd'hui qu'il souhaite recenser les populations migrantes dans les centres d'accueil pour, dit-il, désengorger les dispositifs d'hébergement d'urgence. Pour les associations comme la CIMAD, le SAMU social ou encore Médecins du Monde, une ligne rouge a été franchie, Camille Magnard.
Une ligne rouge, oui, franchie par Gérard Collomb avec cette circulaire qui prévoit d'envoyer dans les centres d'hébergement d'urgence des équipes mobiles constituées d'agents des préfectures et de l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, avec pour mission de contrôler la situation administrative des personnes hébergées. Alors dans la présentation qu'en fait le ministère, il s'agit de mieux recenser les réfugiés et leurs besoins pour mieux les orienter vers des structures adaptées. Mais pour les associations qui gèrent les centres d'hébergement, eh bien c'est une remise en cause inacceptable du principe qui fonde leur action l'inconditionnalité de l'accueil. Définition avec le directeur général de la Fédération des acteurs de la solidarité, l'ex-FNARS, Florent Guéguin.
Nous, on héberge toute personne en situation de détresse sociale sans lui demander ses papiers. Et c'est cette règle-là que le ministre de l'Intérieur veut faire sauter, qui est pour nous, encore une fois, une ligne rouge, un casus belli. D'ailleurs, nous appelons nos adhérents, qui sont majoritaires parmi les gestionnaires de centres d'hébergement, à ne pas appliquer ces consignes. Et si des équipes de l'administration demandent à venir dans les centres d'hébergement pour contrôler les personnes, nous nous y opposerons.
Et derrière ces contrôles administratifs dans les centres, il y a clairement, selon les associations, l'idée d'un tri entre les bons migrants, ceux qui auraient le droit à un toit parce qu'ils pourraient demander l'asile en France, et ceux qui seraient indésirables et devraient être expulsés. C'est l'inquiétude de Bruno Morel, directeur général d'Emmaüs Solidarité.
Il nous a été dit clairement que les personnes en situation administrative irrégulière, leur situation sera examinée, qu'elles ne pourront pas rester dans les centres. Sachant que le bout du bout, c'est une idée de reconduite. C'est ça le risque.
Reportage de Camille Magnard. Le nouvel observateur condamné à verser 90 000 euros d'indemnité à son ex-directrice adjointe, Aude Lancelin. La journaliste avait été licenciée en mai 2016 sans cause réelle et sérieuse, d'après le Conseil des Prud'hommes de Paris qui qualifie le licenciement d'abusif. En France, un week-end très politique en perspective avec le deuxième tour des élections territoriales en Corse, l'élection interne à la présidence du parti Les Républicains et la réunification, moment historique, des deux partis radicaux qui vont fusionner après 45 ans de scission. Bonsoir Frédéric Fogassi.
Bonsoir.
Vous êtes historien et directeur des études à la Fondation Charles de Gaulle. Le congrès de réunification du Parti radical qui va avoir lieu à Paris ce week-end fera date. En considérant l'histoire et en analysant le contexte difficile pour les radicaux, vous diriez que le Parti radical fusionne pour de bonnes ou pour de mauvaises raisons ?
Il y a toujours de bonnes et de mauvaises raisons. Les bonnes raisons, c'est que le Parti radical a été créé en 1901 et qu'il a existé par-delà toutes les vicissitudes comme une formation unifiée jusqu'en 1972. Les mauvaises raisons, c'est que sans doute la réunification, comme d'ailleurs la scission qui date de 1972, sont finalement liées à des contraintes extérieures. Disons que dans une certaine mesure, le Parti radical est aujourd'hui un parti faible qui subit son destin politique plus que véritablement il ne le choisit. C'est la problématique, en fait, depuis quasiment les débuts de la Ve République. Le Parti radical a longtemps été un parti de gouvernement, un parti de centre. C'est-à-dire que pendant longtemps, sa position centrale était une force et c'est progressivement devenu une faiblesse. Puisque avec la bipolarisation de la vie politique, l'élection du président au suffrage universel et également l'essoufflement des thématiques radicales, puisque bon, la République laïque, la démocratie parlementaire, beaucoup de ces objectifs ont été atteints extrêmement tôt, eh bien le Parti radical est vite devenu dépendant de ses puissants alliés à droite comme à gauche.
Finalement. Aujourd'hui, il n'est pas plus maître de son destin. Le macronisme, cette nouvelle entité là qui arrive, il y a d'un côté le parti le plus vieux de l'histoire récente, l'histoire politique française, et puis d'un côté le parti le plus jeune. Là, il y a aussi un problème qui va se poser.
Alors, sans doute, effectivement, il est difficile pour le Parti radical de vouloir incarner une forme de renouveau politique. Le Parti radical incarne beaucoup plus des permanences, la permanence de certaines valeurs républicaines traditionnelles, bien évidemment. il faut également avoir à l'esprit que la réunification du parti radical de droite et de gauche n'est pas quelque chose qui va bouleverser la donne politique. Le poids politique est relativement faible des deux côtés.
Par contre, avec des unions, des groupes parlementaires ?
Même avec des unions et des groupes parlementaires, on peut envisager deux partis qui, à eux deux, pèseront difficilement 3% de l'électorat. Ce qui est important, par contre, c'est le symbole. C'est-à-dire que finalement, la réunification du parti radical à droite et à gauche, c'est peut-être finalement la première initiative qui aille à l'encontre de la bipolarisation de la vie politique. Si le pouvoir actuel voulait montrer, même essayer de pérenniser par un symbole fort, finalement, la création d'un rapprochement entre le centre-droit et le centre-gauche et sa volonté de le pérenniser, ben, finalement, peut-être que le rapprochement des deux partis radicaux était l'action la plus évidente, la plus simple et la plus réalisable. Ce qui pose d'ailleurs une question, est-ce que les deux partis radicaux ont décidé finalement leur réunification ou est-ce que quelque part on l'a décidé pour eux ?
Alors ça c'est un sujet sur lequel vous mettez le doigt, qui est d'ailleurs un problème à l'intérieur des deux partis radicaux qui n'en feront bientôt plus qu'un. Mmh. La ligne de fracture, s'il y en a une, elle est là. Est-ce qu'on est un soutien du macronisme, de En Marche, ou est-ce qu'on s'oppose plus à l'action du gouvernement ?
Alors, oui et non. Il faut bien évidemment avoir à l'esprit que le positionnement vis-à-vis du pouvoir est essentiel pour les radicaux. Il faut également avoir à l'esprit que les identités politiques sont également extrêmement locales. Ce qui va déterminer finalement le choix des fédérations, c'est essentiellement les alliances locales. Est-ce que fondamentalement on peut acter, adhérer à cette réunification, quelque part cautionner le pouvoir actuel, sans perdre des alliances électorales qui garantissent des municipalités, des postes de conseillers généraux et certes, quelque part une survie politique sur le plan local. À mon avis, les refus, Yves Jégo par exemple a déjà déclaré qu'il refuserait d'être de cette réunification, les refus, les causes de ces refus seront clairement à chercher de ce côté-là.
Quel espace politique pour ce nouveau parti radical qui va naître ?
Le but des radicaux n'est pas forcément d'avoir un espace politique. Ils ont quelques thématiques, d'ailleurs surtout chez les radicaux de gauche, mais des thématiques qui d'ailleurs sont assez mal connues du grand public. Les radicaux sont avant tout un parti charnière, c'est-à-dire que leur identité profonde, c'est un parti d'élus locaux, et c'est un parti d'hommes qui ont une certaine pratique de la chose publique et qui sont là pour aider des majorités à tenir, beaucoup plus finalement que pour exister par eux-mêmes. La contrepartie étant qu'ils acceptent d'exister face à des alliés beaucoup plus puissants qu'eux. L'espace politique du parti radical réunifié, c'est quelque part celui que l'Élysée voudra bien lui concéder, et quelque part je serais tenté de dire que les radicaux ne demandent sans doute pas plus.
Peut-être quelques postes.
Sans doute quelques postes, évidemment, mais ça, c'est dans l'identité du radicalisme. À la grande époque du parti radical fort, dans les années 1900-1910, on connaissait le fameux slogan « La République, c'est la justice pour tous et des places pour les amis ».
Comment va se passer l'année qui arrive ? Parce que juridiquement, deux partis vont continuer encore à exister pendant quelques mois. On peut s'attendre à quelques flottements, à quelques tensions. Il va y avoir deux présidents.
On peut sans doute s'entendre à quelques flottements. Je vous ai dit que sans doute au niveau local, là où les alliances sont clairement à droite ou à gauche, il y aura même sans doute des réticences. Il faut avoir bien à l'esprit qu'au sein du Parti radical, la discipline de parti est extrêmement faible et que les radicaux qui estimeront que cette réunification les dessert électoralement n'hésiteront certainement pas à partir, quitte à créer donc des partis radicaux dissidents. Il faut également voir comment, au cours de cette année, va se mettre en place la coprésidence. Je serais tenté de dire que, quelque part, ce n'est pas totalement étranger à la tradition politique radicale. Historiquement, les radicaux ont toujours plus juxtaposé des idées, même des idées contradictoires, que véritablement ils n'ont assuré une synthèse de ces idées ou alors un triomphe d'une ligne sur une autre. Je serais tenté de dire que politiquement, quand au sein du parti radical vous aviez une ligne A et une ligne B, et historiquement à l'époque de Mendès France sur l'Algérie par exemple, plus tard dans les années 60 donc face à l'Union de la Gauche, dans certains partis, par exemple au PS vous auriez une synthèse, c'est-à-dire que A et B ça conduirait à un C. Dans certains pays vous aurez une décision majoritaire, c'est-à-dire que A et B ça conduirait à soit B, au sein du parti radical, ça correspond à A plus B. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas à faire coïncider finalement des positions contradictoires. Et il y a rarement des ruptures pour des questions idéologiques. Il y a plus des ruptures pour des questions d'intérêts électoraux.
Merci Frédéric Fogassi, historien, spécialiste du Parti radical et directeur des études à la Fondation Charles de Gaulle. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Emmanuel Macron, tout à l'heure, a présidé l'hommage national dans la cour d'honneur des Invalides à Jean d'Ormesson. L'académicien décédé mardi était un être de clarté, a déclaré le chef de l'État qui, conformément aux dernières volontés de l'écrivain, a déposé un crayon sur le cercueil recouvert du drapeau tricolore. Demain, c'est à Johnny Hallyday qu'un hommage sera rendu, un hommage populaire à Paris, sur les Champs-Élysées. Éclaircie et légère amélioration des conditions. D'après Météo France, demain, le soleil sera plus présent et si les températures matinales restent fraîches, il fera un peu plus doux dans l'après-midi. Les maximales varieront entre 1 et 5 degrés sur le quart nord-est et sur Auvergne-Rhône-Alpes, sur la Drôme et l'Ardèche. On attend de 6 à 11 degrés de la Normandie au sud-ouest et le long de la Méditerranée. Prévoyez de 12 à 14 degrés sur la façade atlantique.